Et cette semaine, Marie-Pierre, vous avez encore décrypté pour nous la presse chrétienne où un même sujet fait la une, l'embrasement du Moyen-Orient.
Et oui, Jonathan, et j'en veux pour preuve ces quatre couvertures de la Croix. Lundi, Iran, le régime vacille. Mardi, le Moyen-Orient face à l'incertitude. Mercredi, le Golfe dans la tourmente. Jeudi, le Liban piégé. Je vous renvoie à toutes ces analyses géopolitiques décryptées dans nos médias pour m'attarder sur les populations, les sociétés, l'humain. Dans la Croix de ce lundi, vous avez peut-être lu les fragiles espoirs des Iraniens. Hier, ressemblait au premier jour de ma vie. Le ciel était plus bleu que jamais. Le chant des oiseaux, la couleur des feuilles des arbres, tout semblait différent. On aurait dit que le poids sur mon cœur avait disparu. C'est par ces mots qu'un jeune homme de 22 ans décrit ce qu'il ressent à l'annonce de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Shirin, jeune femme de 30 ans qui ne se fait aucune illusion quant aux motivations des États-Unis et d'Israël, souhaite, espère rien de plus que la sécurité pour son peuple et un avenir sans la République islamique ou aucune autre forme de dictature. Pour Raa, qui craint que le régime ne se venge sur la population, les Iraniens éprouvent des sentiments mitigés, alliant peur, espoir et soulagement. Dans le sud Liban, pris en otage par le Hezbollah, les familles fuient les bombardements israéliens. Au Liban, confie la directrice de l'Orient le Jour, dans les colonnes de la Croix de ce mercredi, il y a un mélange de colère, de résilience et d'épuisement profond.
Et dans ce conflit, l'Église a-t-elle un rôle à jouer?
Oui, et pas seulement auprès des communautés chrétiennes d'Iran, d'Irak, du Liban ou de Syrie, souligne cette semaine dans la Croix Mgr Hugues de Voilemont, directeur de l'œuvre d'Orient. Parce que, et je rassemble ces propos, toutes les populations de la région sont touchées. Toutes vivent dans un mélange d'angoisse et de lassitude. La présence et l'action de l'Église s'adressent à tous sans distinction. Sur son site, Famille Chrétienne rappelle qu'à la fin de l'Angélus de ce 1er mars, le pape Léon XIV a exprimé sa grande préoccupation face aux conséquences de l'attaque lancée en Iran par Israël et par les États-Unis. Évoquant des heures dramatiques, il a plaidé pour le retour de la diplomatie, mettant en garde contre le risque que le conflit ne devienne un abîme irréparable. Dans un monde polarisé, reprend Mgr de Voilemont, cette voix peut sembler fragile. Pourtant, l'Église demeure l'une des rares voix capables de s'adresser à tous sans s'inscrire dans un camp. L'Église, c'est ce qu'il dit, n'est pas une puissance militaire, ni un acteur stratégique. Elle est une conscience qui rappelle inlassablement que la guerre crée des blessures durables et que les peuples aspirent d'abord à la sécurité pour vivre en paix.
La sécurité, la paix, une des portes d'entrée du beau reportage de Famille Chrétienne, la grâce des aidants familiaux.
On ne choisit pas d'être aidant. Cela vous tombe dessus comme un tsunami qui en un jour emporte tous les projets. À 60 ans, après un banal accident de vélo qui lui a laissé de lourdes séquelles, surtout psychologiques, alors il ne peut plus faire un repas, il ne peut plus rester seul plus de 3 heures, eh bien Nathalie, son épouse, se retrouve à assister et à porter à bout de bras jour et nuit son mari. Au début, dit-elle, je me suis mise en danger. J'ai eu peur de basculer. Une peur partagée par le grand nombre des quelques 9 millions d'aidants qui, tous les jours en France, assistent à des degrés divers une personne proche dépendante. A contrario, pour Bruno, 60 ans, marié depuis 39 ans, aider son épouse Brigitte, atteinte de sclérose en plaques, n'a pas entamé l'équilibre du couple. Avant d'être son aidant, je suis son mari. Concrètement, ma femme est dans une grande dépendance. Elle n'a plus l'usage de ses membres, très peu. Elle ne peut plus tenir un livre, manger ou faire sa toilette seule. Nous sommes aidés, mais si l'aide à domicile fait défaut, je me retrouve en première ligne. Cependant, le récit des aidants n'est pas seulement celui de la souffrance, c'est aussi celui des joies, de l'émotion, de la tendresse. Et c'est l'histoire de Justine qui prend soin depuis plusieurs mois d'une vieille tante isolée avec laquelle elle n'avait jamais noué de véritables relations. La maladie a tout changé. Épuisement, solitude, amour, le vrai visage des aidants.
Et puis, impossible de faire en cet début de période de mars, de faire l'impasse sur les municipales, Marie-Pierre.
Et oui, la Croix Hebdo y consacre tout un dossier. Splendeur et misère de ma vie demeure. Le journal Réforme s'intéresse aux relations qu'à l'échelon local entretiennent avec les religions, les élus de la République. Entre polémiques sur les crèches de Noël, dans l'enceinte d'une mairie, arrêtés municipaux anti-burkini, la répétition des controverses pourrait laisser penser que la laïcité est source de tensions dans les communes. Eh bien, il n'en est rien. La réalité du terrain montre qu'il se vit une laïcité très apaisée au niveau communal, observe le politologue Philippe Portier. Et enfin, je terminerai là, avec ces villages morts pour la France et qui ont encore un maire. Je m'explique. Tout près de Verdun, 6 communes détruites pendant la Première Guerre mondiale n'ont jamais été rebâties. Et pourtant, elles sont encore administrées par des maires, gardiens de leur mémoire, gardiens de leur histoire passée et présente. C'est dans les pages du magazine La Vie que je découvre leur belle existence. Les édiles, dépourvus d'électeurs, sont heureux de parler de ce qui est aussi pour eux une aventure spirituelle. Nous sommes les gardiens de l'âme de ces villages, souligne le maire de Louvemont, Côte du Poivre. On ne mesure pas assez cet honneur. Dans chacune des communes, la nature a repris possession des lieux. Seules des chapelles-abris, érigées après la fin des combats, rappellent les milliers de vies ensevelies dans cette terre. On y dit la messe et on peut y partager le café et la brioche, résume Maurice Michelet, maire de Besançon. Avant de redescendre, l'édile de Beaumont au Vert du Noir sonne l'Angélus, avec la cloche de la chapelle, installée là par son père, son prédécesseur à ce poste. Elle nous rappelle que la vie est belle et qu'elle triomphe toujours, glisse-t-il, le visage mouillé par les gouttes d'eau et par les larmes. La pluie n'a pas cessé sur le Vert du Noir, mais le soleil y brille.